Bonsoir Tara Chagall.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Cinq nations arabes frappent aux côtés des États-Unis les djihadistes en Syrie. Barack Obama l'a souligné tout à l'heure dans son discours, ce n'est pas la guerre de l'Amérique seule. Nous reviendrons avec Claude Guibal sur l'ampleur de cette coalition contre le terrorisme et puis nous entendrons l'ancienne porte-parole de l'opposition laïque en Syrie, Basma Kodnani, qui réagit à ces frappes. La France va mettre 1 milliard de dollars dans le Fonds mondial pour le changement climatique, dossier suivi par Véronique Rebeyrotte. Et puis nous reviendrons à la fin de cette édition sur le plan social à LCI qui va supprimer 148 postes. 18h20 du Grain à Moudre avec vous Hervé Gardette.
Y a-t-il un nouveau malaise adolescent? C'est la question que nous poserons ce soir à Michel Barzac, Xavier Pomereau et Jocelyn Lachance.
À tout à l'heure. Bahreïn tout à l'heure, les Émirats Arabes Unis maintenant, les cinq nations arabes qui ont frappé cette nuit les djihadistes en Syrie confirment tour à tour leur participation aux côtés des Américains évidemment. C'est une double première si l'on peut dire avec ces frappes US qui se sont étendues au-delà de la frontière irakienne conformément à la stratégie de Barack Obama qui avait prévenu qu'il irait chasser les djihadistes dans leur fief syrien. Cela va avoir des implications sur la guerre qui ravage Damas et la Syrie depuis 3 ans maintenant, on va y revenir. Et puis c'est aussi une première puisque ces nations arabes, membres de la coalition, ont affrété des avions et largué des bombes pour la première fois. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Tara.
Le président américain Barack Obama s'est adressé à son peuple tout à l'heure, discours rapide, 3-4 minutes seulement, pour répéter que les terroristes n'auront de répit nulle part, mais surtout pour montrer que ce n'est pas la guerre de l'Amérique seule, mais bien la guerre d'une grande coalition, plus de 40 nations, a dit Barack Obama, dont justement ces puissances régionales arabes.
Oui, ces puissances arabes dont vous venez de parler, Tara, elles ont participé ou elles ont appuyé les frappes, dit le Pentagone. On notera cette nuance. Alors, trois pour l'instant ont effectivement confirmé leur participation active, leur participation militaire. La Jordanie, tout d'abord, qui dit avoir ciblé des djihadistes qui menaçaient directement sa sécurité nationale. La Jordanie, alliée des États-Unis, qui garantissent en fait sa sécurité et la stabilité de sa monarchie. Viennent ensuite deux monarchies du Golfe, les Émirats Arabes Unis, là où se trouve la base française d'Al-Zafra. C'est la base d'où sont menées les frappes françaises sur l'Irak. Et puis le Bahreïn qui héberge la 5e flotte américaine. Alors on le voit, ce ne sont que des pays arabes qui sont associés à ces frappes, pas de nations européennes, pas même la France. La France qui a toujours dit qu'elle n'interviendrait pas militairement en Syrie, mais seulement en Irak. Paris s'est toujours retranché derrière la légalité internationale pour justifier de ne pas avoir à agir en Syrie. La France, pourtant, pourrait voir évoluer sa position. C'est ce que sous-entendait Laurent Fabius hier soir à New York. Reste que Paris se souvient du camouflet de l'an dernier avec cette volte-face in extremis. Souvenez-vous des États-Unis au moment de l'épisode des armes chimiques. Alors, pas question de s'exposer exagérément cette fois-ci, d'autant que la France, finalement, n'a pas vraiment les moyens d'intervenir de façon autrement que très symbolique. En revanche, on note une grande absente, la Turquie. La Turquie qui voit le groupe État islamique à sa porte avec cet afflux de réfugiés qui viennent du Kurdistan syrien, mais la Turquie qui ne bouge pas. La Turquie qui a dit qu'elle ne pouvait pas intervenir sans mettre en danger la vie de ces 49 otages retenus en Irak. Or, ces otages ont depuis été libérés, mais la Turquie répond toujours aux abonnés absents.
Merci beaucoup Claude Guibal. Vous le disiez, la France a choisi de ne pas frapper en Syrie, mais elle a déjà engagé son combat contre les djihadistes en Irak. Elle se retrouve donc l'une des cibles privilégiées des terroristes. L'enlèvement dimanche soir d'un otage français en est la preuve. Le gouvernement affiche aujourd'hui sa fermeté après la capture d'Hervé Gourdel dans les montagnes du Djourdjoura, dans l'est de l'Algérie. Cet homme de 55 ans effectué, semble-t-il, une randonnée avec des amis algériens qui ont aussi été kidnappés avec lui puis relâchés ensuite. Dans une vidéo, on voit les ravisseurs d'Hervé Gourdel, Kalachnikov à la main, menacés de tuer leur otage si Paris ne renonce pas aux frappes aériennes d'ici 24 heures, donc d'ici ce soir. Manuel Valls a réaffirmé tout à l'heure depuis Berlin où il est en visite officielle qu'il n'y aurait ni discussion ni négociation avec les terroristes. Et puis l'Allemagne, par ailleurs, annonce la libération, elle, d'un otage en Somalie qui avait disparu depuis 2 ans et demi. Il s'agit d'un journaliste qui travaillait pour le Spiegel. On revient donc sur les frappes de l'armée américaine qui ont touché plusieurs provinces en Syrie. D'abord Raqqa, le fief des combattants de l'État islamique. 120 personnes auraient été tuées, assure l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres qui recueille les témoignages sur le terrain de la guerre civile syrienne, mais aussi Deir ez-Zor et la région d'Alep, où des tirs se sont concentrés sur un autre groupe islamiste qui est baptisé Khorasan. Un groupe composé, dit-on, de vétérans d'Al-Qaïda qui auraient planifié, eux, des attaques majeures contre des cibles occidentales. C'est ce qu'affirmait tout à l'heure le Pentagone, c'est-à-dire le ministère américain de la Défense. En Syrie, en tout cas, la réalité de la menace islamiste a jeté, on le sait, des dizaines de milliers de personnes sur les routes. 130 000 sont arrivés en Turquie, fuyant la localité de Kobané, en Kurde. Ces familles ont donc quitté cette troisième ville du Kurdistan côté syrien pour trouver refuge à la frontière turque. Je vous propose de retrouver sur place Omar Rouhman, notre reporter.
Suruj, petite ville frontalière kurde de 40 000 habitants à peine, habituellement paisible, vit depuis une semaine au rythme des vagues de réfugiés venus du canton de Kobané que l'on aperçoit. La Syrie et les djihadistes de l'État islamique sont juste en face, de l'autre côté des barbelés que Jamila, une maman de 4 enfants, a franchi il y a 2 jours.
Il y a eu 3 explosions autour de ma maison, puis une lumière dans le ciel, suivie d'une énorme détonation. C'est à partir de là que j'ai décidé de fuir. Nous avons marché 3 km avant d'arriver à la frontière. Nous avons tout abandonné, voiture, bétail, maison, mais nous avons sauvé notre vie. C'est ça qui compte.
Jamila, comme la majorité des réfugiés de Kobané, refuse d'aller vivre dans les tentes blanches dressées par les autorités turques. Une prison, dit celle qui veut rester libre de ses mouvements. Ici, nous sommes en plein territoire kurde, séparé par une frontière qui n'a pas de sens pour les habitants, qui n'ont pas hésité à ouvrir leurs portes pour leurs frères de Syrie. Certains, comme Ali, veulent faire plus encore, aller combattre les djihadistes. Mais un impressionnant dispositif de sécurité déployé le long de la frontière l'en empêche.
Je suis venu pour aller me battre contre Daesh, mais l'armée ne veut pas me laisser franchir la frontière. Pendant ce temps, les djihadistes massacrent les Kurdes.
Ali attendra l'obscurité de la nuit pour tenter de nouveau sa chance. Devant le poste frontière de Mertipinar, c'est la cohue. Les gendarmes turcs bousculent sans ménagement les réfugiés comme Mohamed, un père de famille qui vient d'arriver de Kobané, un enfant sur ses épaules et un gros sac sous le bras.
Ce qu'on nous fait subir est insupportable. Notre vie est devenue un enfer. Que Dieu maudisse ceux qui ont permis à ces djihadistes de nous égorger, de terroriser nos enfants. Regardez ces femmes, regardez ces enfants. Ils n'ont pas mérité cela. Ces gens n'ont aucune pitié.
Mohamed s'est réjoui des frappes de la coalition sur la ville de Raqqa, fief des djihadistes. Il attend désormais que ceux qui assiègent sa ville subissent le même sort.
Omar Rouhman en Turquie, ses frappes à Raqqa modifient sensiblement la donne sur le terrain intérieur syrien où l'armée de Bachar al-Assad est défiée depuis 3 ans maintenant, à la fois par l'opposition syrienne laïque non extrémiste et par les djihadistes qui font désormais peur à tout l'Occident. Le président syrien Bachar al-Assad à Damas affirme soutenir tout effort international contre le terrorisme. Barack Obama assure lui qu'il faut renforcer aujourd'hui l'opposition syrienne démocratique sur le terrain, celle qui se bat quotidiennement contre les djihadistes, il l'a encore dit tout à l'heure dans son discours. Alors que pensent ce soir les rebelles syriens de ces attaques aériennes qui avaient failli frapper Bachar al-Assad au moment où le monde avait compris qu'il utilisait des armes chimiques contre sa propre population? Des frappes qui viennent aujourd'hui cibler les terroristes de Syrie. Écoutez Basma Kodnani, l'ancienne porte-parole de la coalition nationale syrienne.
L'opposition syrienne n'est pas mécontente de voir les forces du IS ou de l'État islamique frappé parce que la capacité de l'armée libre dans l'opposition ne permet pas de vaincre ce mouvement depuis qu'il a pris autant de force. Il est beaucoup trop puissant aujourd'hui et il est nécessaire de l'affronter avec des moyens bien plus importants que ce que l'opposition peut déployer. Donc les frappes, en principe, devraient bénéficier à l'opposition. Cela dit, nous sommes sur un terrain miné pour l'opposition. L'opposition continue de considérer qu'elle est face à un régime qui frappe tous les jours et qui fait des victimes, et donc son ennemi numéro un est le régime. Donc pour eux, il n'y a aucun doute que l'État islamique est un ennemi. Il n'empêche que substituer un ennemi à un autre et obliger l'opposition à choisir entre le régime ou bien l'État islamique, c'est vraiment obliger l'opposition à choisir entre la peste et le choléra.
Quels sont les risques finalement que cette intervention renforce Bachar al-Assad?
Le régime est lui-même assez content de voir ses frappes contre l'État islamique, que lui-même n'a plus les moyens moyens de combattre. On a vu récemment, le régime a enregistré des défaites importantes face au dit État islamique. Donc le régime croit qu'il va pouvoir bénéficier de ces frappes. Et c'est là toute l'ambiguïté de ces frappes, c'est qu'il faut qu'il soit dit clairement et que sur le terrain on constate que les positions que perdrait le mouvement de l'État islamique soient effectivement remplies, et donc qu'ils soient remplacés par des forces de l'opposition et non que le terrain soit laissé au régime pour revenir. Concrètement, sur le terrain, on devrait le voir, et politiquement, ce qu'il est indispensable d'entendre aujourd'hui, les frappes contre le dit État islamique bénéficient à tout le monde, sont dans l'intérêt de tout le monde, y compris de la Russie et de l'Iran, et qu'en échange de ces frappes qui rendent service à tout le monde, c'est un service de sécurité collective qui est en cours, que ceci se traduise par un compromis politique qui permette une transition réelle en Syrie.
L'opposante syrienne Basma Kodnani, interrogée par Nadine Epstein. Pour être tout à fait complet sur le terrain du terrorisme, il faut ajouter que 3 Français ont été arrêtés aujourd'hui à Orly, 3 djihadistes présumés interpellés en Turquie fin août qui ont été rapatriés en France. Parmi eux se trouverait le mari de Souad Merah, la sœur du tueur Mohamed Merah, âgé de 29 ans. Il est soupçonné, comme ses 2 acolytes, d'appartenir à une filière de recrutement de djihadistes en France. Les 3 hommes ont été placés en garde à vue. Hier, nous vous parlions longuement du Yémen dans cette édition. Eh bien, la situation s'est encore dégradée dans la capitale, Sanaa, où les chiites ont pris le contrôle de la ville malgré l'accord de paix signé dimanche dernier. Le chef de la rébellion, Houthi, le leader chiite, donc, crie même victoire ce soir à la télévision yéménite. Le président Hadi dénonce lui un complot et demande qu'on restaure l'autorité de l'État. Partons maintenant pour les territoires palestiniens en Cisjordanie, où l'armée israélienne a tué 2 personnes aujourd'hui, 2 Palestiniens qu'elle accusait d'avoir assassiné en juin dernier 3 jeunes Israéliens. Cet assassinat avait déclenché les représailles que l'on sait et la dernière guerre contre Gaza. Bonsoir Nicolas Roper.
Bonsoir Tara, bonsoir à tous.
Vous êtes à Ramallah, dans les territoires palestiniens. La mort de ces 2 suspects sème la colère à Hébron, où cela s'est produit. Et la colère a même dégénéré tout à l'heure en affrontement, Nicolas.
Oui, plusieurs milliers de personnes étaient réunies ce midi à Hébron pour rendre un dernier hommage aux 2 Palestiniens abattus dans la nuit par l'armée israélienne. Ils étaient tellement nombreux lors de la prière qui a eu lieu à la mosquée Al-Hussein que certains ont dû prier dehors. Les soutiens ont ensuite marché dans une ville de Hébron complètement morte. Les commerces ont été fermés pour la journée. Des slogans hostiles à Israël ont été scandés. Les participants s'insurgent contre l'exécution sans procès de ces 2 Palestiniens. Où sont les preuves, s'interroge un jeune. Si certains se disaient pacifistes, d'autres criaient vengeance aujourd'hui. Pour tout le monde en tout cas, quoi qu'ils aient fait, ces 2 Palestiniens sont des héros de la résistance. La foule s'est ensuite dirigée dans le calme vers le cimetière. Ce matin, pourtant, des affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre israéliennes avaient fait plusieurs blessés à l'endroit où les 2 jeunes ont été tués. Des affrontements qui ont repris dans le centre-ville cette fois. Des jeunes masqués lançaient des pierres contre l'armée israélienne qui répliquait à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie, est en tout cas aujourd'hui en ébullition.
Merci beaucoup Nicolas Repère en direct de Ramallah en Cisjordanie. Le monde doit changer de cap. Ces mots sont ceux du secrétaire général des Nations Unies en ouverture du sommet extraordinaire sur le climat qui se tient à New York. Sommet convoqué par Ban Ki-moon face à l'urgence climatique et qui doit préparer le grand sommet de Paris. On le sait, l'année prochaine, où pourrait être signé le premier accord mondial qui impliquerait cette fois tous les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, y compris la Chine. Soulignant que personne ne va échapper au réchauffement climatique, Ban Ki-moon a appelé les 120 chefs d'État et de gouvernement présents à New York à abonder de 78 milliards d'euros par an le Fonds vert pour le climat. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Et on apprend donc dans la foulée que François Hollande, c'est-à-dire la France, va contribuer à la hauteur de 776 millions d'euros au cours des prochaines années.
Voilà, et créé en 2009, les caisses de ce fonds vert pour le climat sont 5 ans plus tard quasiment vides, à peine 50 millions d'euros, une misère alors que l'objectif est de mobiliser, vous l'avez dit, 78 milliards d'euros par an d'ici 2020 pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aussi au réchauffement climatique. Organisateur d'un sommet capital sur le climat l'an prochain à Paris, François Hollande ne pouvait pas faire autrement que de montrer l'exemple et d'annoncer enfin la contribution française. 778 millions d'euros, 1 milliard de dollars versés au cours des prochaines
années, un chiffre voisin de celui annoncé par l'Allemagne cet été. Les pays en développement demandent que la première capitalisation du fonds vert soit comprise entre 10 et 15 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. C'est le prix à payer pour rétablir très vite une confiance largement entamée entre les pays industriels historiquement responsables du réchauffement climatique et ceux du Sud, considérés comme les premières victimes du réchauffement. Les ONG françaises présentes à New York s'inquiètent déjà de savoir si, en cette période de vache maigre, la contribution française au fonds vert pour le climat sera bien de l'argent neuf. S'agira-t-il bien de nouveaux financements ? Les ONG craignent que l'on affecte au fonds vert pour le climat l'aide au développement versée chaque année par la France et les pays riches en général aux pays les plus pauvres. Du recyclage en général. Voilà.
Merci Véronique Rebérotte. C'est l'épilogue d'un bras de fer emporté pour une fois par la société civile. En Espagne, finalement, on ne réformera pas la législation sur l'avortement. On se souvient que le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy voulait restreindre le recours à l'IVG. Un projet de loi a été prévu. Après d'importantes mobilisations, le Premier ministre Rajoy renonce, faute de consensus à Madrid. Les précisions de Mathieu de Taillac.
C'est un retrait pur et simple de la réforme. Le projet de loi était extrêmement restrictif. Il réservait l'avortement légal au cas de viol et de risque pour la santé de la femme. Pour toutes les autres situations, l'IVG devait être un délit en Espagne, même pour certaines malformations du fœtus. Après des manifestations des collectifs féministes et des professionnels de la santé, le texte avait été mis en sommeil pendant plusieurs mois. Selon la presse espagnole, ce sont les sondages qui ont achevé de décourager Rajoy. Le projet ne convainquait personne, pas même les électeurs de droite. Ces derniers étaient divisés, ils n'avaient aucune envie que leur gouvernement se mêle d'un sujet aussi controversé. Finalement, le gouvernement oublie toutes ces barrières à l'IVG. Il prépare désormais une petite réforme à la marge pour que les jeunes femmes de 16 et de 17 ans ne puissent plus avorter sans l'accord de leurs parents. Une restriction, certes, mais qui n'a rien à voir avec le projet initial. Ce dernier était trop gênant avant plusieurs rendez-vous électoraux en 2015. Il a donc été remis à plus tard, avant peut-être d'être définitivement oublié.
Mathieu de Taillac à Madrid, et on a appris il y a quelques minutes la démission du ministre espagnol de la Justice après le retrait du projet de loi sur l'avortement. C'est une avancée importante pour les couples homosexuels. Un enfant conçu par PMA, par procréation médicalement assistée, peut être adopté par l'épouse de sa mère. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a été sollicitée pour avis par deux tribunaux et elle estime qu'il n'y a pas de fraude pouvant justifier un refus d'adoption. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le mariage pour tous, seuls 9 couples de femmes sur 290 s'étaient heurtés à un refus d'un tribunal. La Cour de cassation vient donc confirmer une tendance en marche, mais le débat n'est pas tout à fait clos pour autant, Aurélie Kiffer.
Oui, alors ces avis mettront fin à plusieurs mois d'insécurité juridique pour les familles homoparentales, c'est ce que déclare la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui se réjouit. Oui, lui répond l'association SOS Homophobie, la Cour de cassation va dans le bon sens, mais il faut maintenant aller plus loin et autoriser la PMA à toutes les femmes en France, conformément à la promesse faite par le candidat François Hollande. Johan Rosevitch, président de SOS Homophobie.
Les lesbiennes qui recourent à la PMA à l'étranger prennent des risques de santé puisqu'elles ne peuvent pas être suivies par le médecin qui les a aidées à cette procréation. Il y a également des discriminations sociales puisque tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'étranger. Ce qui est important, c'est la protection des enfants et des parents.
La Manif pour tous, au contraire, dénonce une pratique allant à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Écoutez Ludovine de la Rochère, présidente du mouvement.
Cet avis est stupéfiant. Il dit... Certes, la PMA est sous condition, mais dès lors que cela se fait à l'étranger, ça ne nous regarde pas. Et puis après, on peut faire adopter cet enfant. Donc il y a contournement de la loi validée par la Cour de cassation. Honnêtement, je pense que la France a perdu le bon sens et la Cour de cassation crée une injustice majeure pour l'enfant.
Aujourd'hui, on banalise la PMA et après, ce sera le tour de la gestation pour autrui, estime la Manif pour tous, qui appelle à la mobilisation le 5 octobre pour dire non aux conséquences de la loi sur le mariage pour tous.
Aurélie Kiffer, merci. On termine par le coup de massue sur les salariés du groupe TF1, le plan social chez LCI, 148 suppressions de postes. La chaîne va être complètement transformée. Cette décision de TF1, la maison mère de LCI, fait suite au refus du CSA d'autoriser le passage d'LCI sur la télévision gratuite. Les salariés Israéliens ne s'attendaient pas à un coup à ce point tragique pour eux, Théo Manval.
Oui, au total, il ne restera que 54 emplois chez LCI sur 247 au départ. 58 postes sont supprimés directement sur la chaîne, 9 autres sur le site internet MyTF1 News et 81 au sein même de TF1. Là, ce sont surtout des techniciens qui travaillaient pour LCI, mais dont le contrat était signé avec la maison mère. Philippe Ballard est délégué CFTC du personnel et l'ampleur des chiffres annoncés ce matin l'a tout simplement sonné.
C'est le deuxième coup de massue après celui du 29 juillet, la décision qu'on n'a toujours pas compris d'ailleurs du CSA de nous interdire sur la TNT gratuite pour les salariés. Voilà, c'est l'annonce de 148 suppressions d'emplois sur LCI, TF1 et TF1 News. Bon, maintenant, on a 2 mois pour essayer d'améliorer ce plan, pour faire en sorte qu'il soit un peu moins violent pour les salariés. Mais c'est voilà un sentiment d'injustice. Depuis le 29 juillet, d'amertume. Là, moi, j'ai vu des personnes pleurer, tout simplement, ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, le 29 juillet. Mais là, je pense que c'est la fin d'une histoire. Nous ne sommes plus une chaîne d'infos en continu.
Et en effet, LCI ne devrait garder que quelques heures de programme, notamment des flashs d'informations, mais plus de suivi à chaud de l'actualité. À la place, elle produit des vidéos payantes pour les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Les syndicats, eux, refusent de baisser les bras. Ils espèrent limiter le nombre de licenciements, notamment avec les départs volontaires. Surtout, ils rappellent que les négociations continuent pour un partenariat avec le site internet du Figaro. Le Figaro.fr pourrait payer pour utiliser les vidéos de LCI, voire reprendre une partie du personnel. On attend encore la concrétisation d'un accord, mais c'est l'un des principaux espoirs du côté des salariés ce soir.
Théo Manval, merci. Et puis la grève continue chez Air France et les pilotes ont défilé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Le temps demain, des orages au sud, mais beau sur le reste du pays. À 22h, ce sera Michael Ponge pour les informations.